Chapitre 21. Le soir descend doucement sur les volcans. Derrière le ciel d'orange sanguine, les cratères prennent des teintes aigues-marines, tels des colliers d'îles-perles reliés entre elles. Un décor d'archipel irréel. Les pierres noires du hameau de Froidefond, chauffées toute la journée au soleil entêté, semblent enfin respirer. Tom reprend lui aussi son souffle. Il a grimpé d'une traite la montée de Murol à Froidefond. Après ses 500 mètres à la piscine, il ne lui manque plus que de se mettre à courir et il sera prêt pour le triathlon du lac Chambon. Il pose son vélo contre le bac de granit humide de la fontaine et se retient de boire à l'eau rouge qui coule du robinet de cuivre. Maman lui a interdit. Pourtant, de la cour de la ferme, il aperçoit souvent des promeneurs venir remplir une gourde, surtout les plus âgés. Il connaît la légende, évidemment. Comme ici, tous les gens. Le petit point noir dévale la route. Plusieurs virages au-dessus de Froidefond, pas plus grand qu'une mouche d'abord, avant de grossir au fur et à mesure qu'il s'approche, jusqu'à avoir exactement la même taille que lui. Et le même vélo. En un peu plus neuf, peut-être. Le dérailleur n'est pas rouillé et ses roues brillent de tout leur rayon d'acier. Tom est content de le voir s'arrêter pour lui parler. Tom est le seul enfant du hameau. Alors l'apparition d'un ami, même s'il est sorti de sa tête, c'est tout de même une bonne nouvelle. Tom adresse un signe de la main au garçon qui lui envoie le même en retour. Il a toujours cette impression de se voir dans un miroir. Un miroir qui parle et qui pédale. « Salut Tom !» fait le miroir. « Salut Esteban !» répond Tom sans la moindre hésitation. Le miroir pose à son tour son vélo contre la fontaine. Il fronce les yeux, vexé. « Je ne m'appelle pas Esteban. Je te l'ai dit l'autre fois à la piscine. J'ai l'air d'un garçon qui est mort noyé. Et tu t'appelles comment alors ?» Le miroir hésite, comme si son identité était le plus terrible des secrets, puis finit par céder. Bon, d'accord. Si ça te fait plaisir, appelle-moi Esteban. Tom jubile. Ah, tu vois ? Il fixe avec envie son vélo flambant neuf. Tu fais quoi ? Esteban ouvre grande sa main. Une pièce de 1 € brille au creux de sa paume. Je descends à Murol chercher du pain. Il referme doucement son poing. Je peux venir avec toi ? Propose Tom. Je croyais que j'étais un fantôme. Fantôme ou pas, t'as quand même besoin d'un vélo pour descendre. Et tu devras pédaler pour monter. T'es vraiment complètement dingo. Si je me suis noyé dans l'océan il y a 10 ans, pourquoi je serais là à te parler? Tom soupire. Je t'ai déjà expliqué. T'es mort au moment où je suis né. Alors ton âme est venue habiter dans ma tête. Et comme mon anniversaire approche, tu te manifestes. Tu fais du grabuge dans mon cerveau, tu vois, pareil qu'un rêve. Ou un cauchemar plutôt. Esteban pose sur le rebord de la fontaine le sac qu'il portait sur son dos.
Sympa, j'ai une tête de cauchemar.
Il ouvre le sac, en sort un paquet de gâteaux au chocolat et une bouteille de coca.
T'en veux? Je partage.
Il est plutôt cool ton pire cauchemar, non? Tom accepte. Croque dans les cookies. Ils ont l'air vrais. Esteban en mange aussi, ça le perturbe un peu qu'un fantôme puisse avoir autant d'appétit. Du coup, ils ne savent plus trop quoi dire pendant une minute. Alors qu'ils rincent leur bouche à grandes gorgées de coca, Tom jette un regard sur les alentours. Les maisons de Froidefond fermées à double volet au-dessus, la souille chez lui juste en dessous, et tout autour, les pâturages fleuris de pissenlits et de pâquerettes, pas complètement endormis. Il esquisse malgré lui un mouvement de recul. Quelques abeilles butinent au loin. Sa main tremble d'un coup et une bonne partie de la bouteille se renverse dans son cou.
« Merde !»
Esteban n'a rien raté de la scène. « T'as peur des abeilles ?»«
Ouais, »
confesse Tom.
Les docteurs appellent ça la piphobie. Et Ma vie va devenir un enfer. D'habitude, elles ne sortent pas avant mai. Mais avec le réchauffement, elles sont déjà là, dès février. T'imagines pas à quel point c'est galère.
Il tente d'essuyer avec la manche de son pull le coca qui coule dans son cou. Il sent le liquide poisseux dégouliner sous ses habits.
« Enfin si !»
continue Tom, agacé.
« Je me doute que... T'imagines, vu que c'est toi qui me l'as refilé, ce trauma ?»«
Merci, toujours aussi sympa. »
Tom repense au shampoing miel avoine avec lequel Esteban se lavait les cheveux à la piscine.
« De rien. T'as juste la chance d'être un fantôme et de te foutre des piqûres maintenant. C'est peut-être pour ça que tu ne t'en souviens pas. »«
De quoi ?»«
De ta peur des abeilles. »
Esteban range les cookies et la bouteille de coca dans son sac, puis poursuit.
« J'y réfléchis depuis, figure-toi. Depuis la piscine, je veux dire. Je crois qu'en creusant très profond, j'ai fait remonter des souvenirs.
Je vois une partie de cache-cache. Il y a la montagne autour, la mer au loin, une rivière, des vaches. Je vois 5 ruches aussi. Mais je ne sais pas que ce sont des ruches. Je crois que ce sont des niches. Alors je décide de me cacher et... »
Tom frappe dans ses mains, autant pour l'applaudir que pour couper son récit.
« C'est bon, t'as 20 sur 20, pas la peine de raconter la suite. C'est pas un super souvenir, ni pour toi, ni pour moi. »
Tout en remettant le sac sur son dos, Esteban dévisage Tom. « Et toi ? Comment tu peux te rappeler de tous ces détails-là ? Si j'étais encore vivant, c'est que t'étais pas encore né ?» Tom place son doigt devant sa bouche.
« Quelqu'un d'autre me l'a raconté, mais chut ! C'est un secret !»
Esteban pose les mains sur son guidon. Il jette un coup d'œil à sa montre.
« Comme tu veux. Je dois vraiment y aller, ou je vais me casser le nez devant la boulangerie. »
Il cligne un œil à Tom.
« Je suis rien qu'un fantôme débutant, même pas capable de traverser une porte fermée. Et avant de rentrer chez toi, tu ferais bien de te laver. »
Les taches de coca forment de larges auréoles sur le pull beige de Tom, et le liquide noir continue de grignoter la laine.
« Pourquoi tu ne te rinces pas à la fontaine ?»«
Surtout pas ! Faut pas la boire ! Même pas la toucher !»
Esteban est remonté sur sa selle.
« Je confirme, t'es vraiment givré. »«
N'importe quoi !»
réplique Tom vexé.
« Pour l'eau de la fontaine, tout le monde sait que... Fais gaffe, derrière toi !»
Esteban a crié. Tom a sursauté. Il se retourne brusquement. 3 abeilles voltigent autour de son pull, attirées par le sucre. Il agite les bras, mouline des grands gestes désordonnés de pantin aux fils emmêlés. Ça ne fait qu'exciter davantage les insectes. Esteban s'apprête à crier des conseils. « Reste tranquille. Ne bouge pas. » Mais Tom s'est déjà mis à courir, espérant les semer. Il le voit traverser la route, grimper le talus, entrer dans le champ qui descend en pente douce jusqu'au torrent, laisser derrière lui un sillon d'herbe écrasée. Et autour de lui, seules 1 ou 2 abeilles qui ont le courage de poursuivre cette fleur beige sucrée qui tente de leur échapper. Jamais Tom n'a couru à une telle allure. Il ne réfléchit pas. Il se laisse entraîner par la pente. Chacun de ses pas va plus vite, plus loin que le précédent, comme une horloge qui s'affole, comme une boule qui roule et qui gagne sans cesse de la vitesse. Impossible de s'arrêter. Ses jambes lancées au galop ne le pourraient pas. Les ordres lancés à son cerveau ne suffiraient pas. Les abeilles sont toujours là. Tom le sent. Il a commis une grave erreur en s'enfuyant de la fontaine. Il a choisi la mauvaise direction. Il a coupé droit par le champ le plus proche, par la descente la plus raide. Il pensait ainsi échapper aux insectes. Mais partout où il regarde, le pré, plein soleil, est couvert de boutons d'or, de coquelicots et de pissenlits. Les tiges lui montent aux genoux, et à chaque nouvelle foulée, il a l'impression de déranger des centaines d'abeilles occupées à butiner, et que, furieuses, elles vont se ruer sur l'imprudent qui a essayé de les écraser. Combien sont-elles à le poursuivre ? Il n'a pas le temps de vérifier. Juste une certitude absolue, il ne doit pas se retourner, il doit continuer. La rivière est en bas du champ, tout près. Une fois sorti de ce piège fleuri, il sera sauvé. Tom court encore. Est-ce son propre souffle qui bourdonne à ses oreilles ou toujours les insectes? La rivière est là, juste après le barbelé qu'il franchit presque sans s'arrêter en écartant les fils d'acier. Ses mains saignent comme si elles avaient voulu cueillir un rosier. Tant pis, continuez. Il imagine le temps d'une pensée terrifiante que ses poursuivantes ne sont pas des abeilles, mais des guêpes, attirées par le sang, qu'il n'a plus aucune chance de les semer. Ne pas se laisser déconcentrer surtout. C'est le coca sur son pull qui les attire. Pas trois égratignures, mais il n'a pas le temps de l'enlever. Elles sont là, voltigeantes, il les devine. Plouf ! Ses deux baskets s'enfoncent dans l'eau. C'est sa seule chance. Maman sera furieuse, c'est sa seule paire pour tout l'hiver, mais il s'en fiche. L'eau lui arrive jusqu'aux chevilles, moins haut que l'herbe. Et il ne dérange plus aucun insecte à la piétiner, à peine des pierres qui roulent sous ses pieds. Plusieurs fois, il manque de glisser. Il espère les avoir distancés. Les abeilles doivent être restées sur l'autre rive, mais le ruisseau n'est large que d'un mètre, un seul pas de côté vers les trèfles d'eau, ou les iris qui poussent sur la berge, et tout sera à recommencer. À moins de continuer jusqu'au sous-bois, droit devant, dans l'ombre des sapins et des châtaigniers, aucune plante de printemps n'a encore fleuri. Là-bas, il sera à l'abri. Encore quelques mètres. Les vieilles converses de Tom clapotent comme s'il courait dans une pataugeoire interminable, une pataugeoire d'eau de plus en plus froide au fur et à mesure qu'il s'enfonce sous les arbres. Cette fois, il est définitivement sauvé. Tout est sombre dans la forêt traversée par la rivière. Il n'y a plus aucun confetti de couleur pour attirer ces monstres. Pourtant, il entend encore bourdonner, là, tout près. Comme si un nid était accroché, que quelque rabatteuse lui avait tendu un piège et qu'un essaim l'attendait. Il doit s'enfoncer encore plus loin, descendre encore le torrent. Elles finiront bien par le lâcher. Ce bourdonnement pourtant là, droit devant. L'eau lui arrive jusqu'aux genoux maintenant. Il se souvient soudain du nom du torrent. Il l'a lu sur une carte. Le ruisseau de l'enfer. Et alors qu'est-ce que ça change? Il ne doit pas renoncer, il ne doit pas s'arrêter, il doit sauter de pierre en pierre, faire attention tout de même, choisir les bonnes, les plus grosses, les plus stables pour ne pas tomber. Tom n'a pas le temps de rétablir son équilibre quand il voit le vide devant lui. Il a juste le temps de comprendre que le bruit qu'il entendait était le bourdonnement d'une cascade. Il a juste le temps d'évaluer sa hauteur, près d'une quinzaine de mètres. Il a juste le temps de se rappeler son nom, le saut du loup, et de fixer avec effroi les rochers acérés, tels des crocs sur lesquels il va s'empaler, avant de basculer.